14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. La devise républicaine version Macron en ouverture du premier conseil des ministres ce matin. Un projet de loi pouvoir d'achat sera examiné avant les législatives dans 3 semaines. Deux autres crises s'aggravent. Les urgences à l'hôpital, elles seront filtrées dès 15h à partir de lundi prochain à Cherbourg. Nous irons en reportage. Et le recrutement des enseignants, là aussi reportage dans l'académie de Limoges. Le nombre de candidats professeurs des écoles a été divisé par 4 en 2 ans. À peine nommé ministre des Solidarités, Damien Abad est déjà appelé par quelques opposants à démissionner. 2 femmes l'accusent de violences sexuelles. Il est toujours en poste pour l'instant. La nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.
La ligne du président de la République et les propos de la première ministre Elisabeth Borne hier ont été très clairs. Tolérance zéro.
À propos de Damien Abad, elle ajoute que la première affaire a été classée sans suite. À ce stade, aucune autre procédure en cours. Autre sujet, le plein emploi sera votre boussole, dit Elisabeth Borne à son successeur au ministère du Travail ce matin, Olivier Dussopt. Un CDI pour tous est-il possible? Oui, répondent 2 entrepreneurs. Ils viendront à 13h30 nous raconter leur expérience et leur combat pour une forme de contrat méconnu. Vos questions et témoignages sur le marché du travail, je vous attends. 01 45 24 7000, en particulier si vous enchaînez les missions d'intérim ou les CDD. Dans l'actualité encore, prison à vie pour le soldat russe accusé de crimes de guerre en Ukraine. Les orages, gros dégâts dans le centre, à Châteauroux en particulier. Le nouvel archevêque de Paris, entré en fonction aujourd'hui. En football, cette question, nous verrons cela avec le spécialiste Vincent Duluc. Mbappé est-il l'unique patron au PSG? Et puis en ces temps de Roland-Garros, c'est Alizé Cornet qui est avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Qu'est-ce qui se joue dans les premiers moments d'un gouvernement? Les 29 secrétaires d'État et ministres, en comptant la première, Elisabeth Borne, dont 14 femmes, avaient rendez-vous à l'Élysée ce matin pour le premier conseil. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Ambiance beaucoup moins légère que celle d'autres premiers conseils des ministres. L'un des membres du gouvernement, Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, est visé par des accusations de violences sexuelles et même de viols, ce qu'il conteste avec la plus grande force. Son cas a concentré une bonne partie des propos lors du compte-rendu du conseil, Maxence.
Oui, en effet, avec d'abord un regard furtif vers les photographes, Damien Abad ne s'est pas arrêté sur le perron de l'Élysée. À la sortie, on lui a demandé « Comment allez-vous ? Bien, vous réfutez les accusations ?» Bien sûr, glisse-t-il du bout des lèvres. Pendant des années, il a rêvé de ce moment. Le voilà au cœur de la première polémique de ce quinquennat, obligeant la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, à le défendre lors du traditionnel compte-rendu, en commençant d'abord par rappeler sur ce sujet la tolérance zéro du gouvernement.
Le gouvernement continuera sans relâche à encourager la libération de la parole des femmes et sans relâche encouragera les femmes ayant subi des violences à se présenter à la justice.
L'air grave, Olivia Grégoire a fait face à la demi-douzaine de questions, assurant que Damien Abad avait eu un entretien hier soir avec la première ministre qui lui a rappelé son engagement personnel sur ce thème.
La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas pour habitude et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses.
Et Olivia Grégoire n'a pas précisé en effet quel serait l'élément nouveau susceptible de le faire quitter le gouvernement. Enquête préliminaire, mise en examen ou condamnation.
Autre sujet pour ce Conseil des ministres, Maxence Lambrecq, le pouvoir d'achat, premier dossier qui sera examiné.
Oui, depuis que le Parlement a fermé ses portes fin février, aucune nouvelle mesure n'a pu être prise. Il est donc urgent de montrer sa mobilisation. Réunion ce midi à Matignon, concertation cet après-midi à Bercy avec syndicats et patronats. Le texte pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres avant les législatives, au plus tard dans 2 ou 3 semaines donc, pour qu'il puisse être examiné par la nouvelle Assemblée nationale début juillet. Ce sera le tout premier texte du quinquennat comprenant les promesses de campagne d'Emmanuel Macron, prolongation du bouclier tarifaire, de la remise sur les prix des carburants, création d'un chèque alimentation, revalorisation des minima sociaux, suppression de la redevance audiovisuelle et triplement de la prime Macron.
Et consultation entre le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui a gardé son poste, Bruno Le Maire, et les partenaires sociaux cet après-midi à Bercy. Le ministre appelle à répartir la charge de la lutte contre l'inflation, autrement dit que les entreprises y participent aussi. Première réponse, François Asselin, président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, il n'y aura pas de hausse uniforme des salaires.
et sur la prime Macron qui peut être triplée. Il demande à ce qu'elle soit étalée dans le temps. Quant à la ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon, elle a dit ce week-end faire de l'accès aux soins pour tous sa priorité lors de la passation de pouvoir entre Olivier Véran et elle-même. Elle pensait en particulier aux déserts médicaux. Il y a aussi la crise des urgences qui monte à l'approche de l'été. Près d'un cinquième des services réduisent leur activité ou s'apprêtent à le faire par manque de personnel, selon un des comptes de l'association SAMU Urgences de France. La liste des services qui réduisent la voilure s'enrichit chaque jour. Bientôt Cherbourg dans la Manche. Déjà, depuis janvier, il faut passer par le SAMU la nuit. À partir de lundi prochain, il faudra faire de même dès 15h. Frédéric Thiébaud, France Bleu Cotentin.
Du côté des syndicats, on estime que cette nouvelle organisation de l'accueil des patients cet été est la moins pire des solutions. Sylvie Meriel, représentante force ouvrière au centre hospitalier public du Cotentin.
On n'a pas le choix, on est obligé de réguler. On a bien conscience que c'est pas facile pour la population. Après, le nécessaire est fait pour que toutes les urgences vitales, les prises en charge de la douleur soient correctes.
Les patients seront donc en partie réorientés vers les généralistes ou SOS médecins. Mais là aussi, la situation est tendue, explique le docteur Christophe Marchenet, président de la structure à Cherbourg.
Les gens, il faut les réorienter parce qu'ils n'ont pas leur place aux urgences. Mais les gens ont appelé leur médecin traitant qui a déjà un planning bouclé. Nous, selon l'heure, ça nous arrive d'être plein.
Cette situation n'est pas une surprise pour le maire de Cherbourg-en-Cotentin. Benoît Arrivé réclame un plan Marshall de la santé.
Ici, localement, notre objectif principal, c'est d'éviter la fermeture que l'on constate encore une fois malheureusement ailleurs. Comme d'autres élus, ça fait quelques années que l'on dit qu'on va dans le mur et aujourd'hui, on y est. Il suffit de lire la presse nationale pour s'apercevoir que partout, il y a des urgences qui ferment.
La direction du CHPC n'a pas souhaité s'exprimer. Dans son communiqué, elle affirme que cette situation demeure provisoire.
Voilà pour le dossier rouge du ministère de la Santé. Parmi ceux du nouveau titulaire de l'éducation nationale, Pap Ndiaye, le recrutement des enseignants. Et là aussi, déposons sur le bureau un exemple venu du cœur de la France, la Creuse. À en croire le syndicat SNUIPP, le nombre de candidats au recrutement de professeurs des écoles est en chute libre dans l'académie de Limoges. Il y avait 816 candidats en 2020. 185 cette année, plus de 4 fois moins. Nicolas Joly, France Bleu Creuse.
Marianne Rouchon, représentante du personnel auprès du SNUIPP FSU en Creuse, fait état de difficultés rencontrées par les professeurs des écoles.
Dû à des conditions de travail qui sont dégradées au quotidien, notamment par rapport à un public d'élèves qui est de plus en plus hétérogène, avec des élèves également en difficulté.
Elle se dit inquiète pour l'avenir de la profession.
Moins de personnel vont être formés. Fatalement, on va avoir recours à des contractuels qui ne vont pas être pérennisés dans le temps, on va avoir tous ces problèmes dits précédemment.
Au campus universitaire de Guéret, on forme justement les élèves qui passeront le concours pour devenir professeurs des écoles. Pour son responsable, Benoît Damien, la baisse du nombre d'inscrits est aussi liée à la réforme de l'examen.
Pour la première fois, on applique effectivement la réforme du ministre Blanquer qui consiste concrètement à pouvoir présenter les concours de l'enseignement, pas seulement professeur des écoles, avec un bac plus 5. L'année dernière, on présentait le concours durant le master. Dit autrement, les candidats qu'on a présentés cette année avaient déjà présenté le concours l'année dernière et donc ne l'avaient pas obtenu. C'est un vivier dans lequel on avait déjà puisé.
Selon lui, avec 600 préinscrits sur 100 places en master, on ne peut pas encore parler de crise au niveau de l'université. Il faudra attendre de voir le nombre de candidats au concours l'année prochaine.
Quant à la Première ministre, avant de s'asseoir face au président de la République pour la première fois ce matin, Elisabeth Borne a passé le flambeau à son successeur au ministère du Travail. L'intitulé du poste de l'ancien socialiste Olivier Dussopt, c'est ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous étiez rue de Grenelle ce matin, 7e arrondissement de Paris, pour la passation de pouvoir.
Oui, et la Première ministre qui a transmis les clés donc de l'hôtel du Châtelet à l'homme garant jusqu'ici des comptes publics, Olivier Dussopt, et qui hérite ici d'un portefeuille qu'on pourrait presque qualifié d'inédit par le nom qu'il porte.
Monsieur le ministre, vous prenez vos fonctions dans un ministère au nom changé et aux ambitions encore rehaussées. Le plein emploi sera le symbole de cette renaissance de notre pays que nous devons aux Français. Le plein emploi sera votre boussole. Vous pouvez compter sur moi, votre succès sera celui des Français. Je vous remercie.
Le nouveau locataire des lieux qui devra faire preuve de détermination, dit que cite Elisabeth Borne, pour cause. C'est lui qui, au-delà de l'objectif fixé de ramener le chômage aux alentours de 5%, devra aussi porter la dure et controversée réforme des retraites. On peut le dire, la patate chaude de ce second quinquennat. À l'entendre, Olivier Dussopt l'accepte volontiers.
Je n'ai pas peur des désaccords, je n'ai pas peur des débats. La tâche est immense, je le mesure. Je souhaite l'amener avec les partenaires sociaux dans la concertation et mes premiers gestes, mes premières décisions, les premiers engagements seront justement pour les recevoir, tous, dès cette semaine, afin d'évoquer avec eux leurs projets, leurs attentes, pour nouer tout de suite une relation de travail et je le souhaite une relation de confiance. Soyez assurés, Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, que j'y consacrerai toutes mes forces et toute ma détermination. Merci à tous.
Les syndicats qui devraient recevoir une invitation sous peu et qui, on le sait, attendent de pied ferme le nouveau ministre sur cette réforme des retraites qualifiée d'injuste, y compris par les plus modérés.
À propos d'emploi, un CDI pour tous les salariés, c'est possible. C'est ce que disent nos deux invités de 13h30 aujourd'hui, Philippe Bazin et Valérie Bazin. Ils nous feront part de leur expérience et de ce type de CDI pour lequel ils se battent contre un méconnu CDI d'employabilité. Appelez-nous pour toutes vos questions sur le marché du travail, 01 45 24 7000. Le premier conseil des ministres se tenait ce matin à 3 semaines du premier tour des élections législatives et l'Institut Ipsos Soprasteria avec le Centre de Recherche de Sciences Po et la Fondation Jean Jaurès publie un sondage. Particularité de ce sondage, l'importance de l'échantillon. Plus de 11 000 personnes interrogées, plus de 6 000 certaines d'aller voter et qui expriment une intention précise de vote. Cette consultation montre le maintien de la répartition en 4 blocs de l'électorat. Les abstentionnistes d'abord, taux de participation estimé moins de la moitié, 47%. Pour ceux qui expriment une intention de vote, 28% pour la majorité présidentielle sous la bannière Ensemble, 27% pour l'Union de la Gauche, la NUP, 27% pour l'extrême droite, les trois quarts pour le Rassemblement National, le reste pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Rappelons qu'ils partent divisés, ce qui change beaucoup de choses. Il reste 9% d'intention de vote pour le parti de droite, les Républicains et ses alliés. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Alors en projection, en siège à ce stade, évidemment cela peut bouger. Selon ces intentions de vote, cela donnerait quoi en siège?
Alors si l'on se fie à cette photo à l'instant T pour le journal Le Monde réalisé avant l'annonce du gouvernement et donc avant les premières polémiques, eh bien Emmanuel Macron aurait la majorité absolue à l'Assemblée entre 290 et 330 sièges. La gauche bénéficierait d'un effet NUP, première opposition, 165 à 195 sièges. La droite LR dégringolerait entre 35 et 65 députés, c'est moitié moins qu'aujourd'hui. Et le RN, entre 20 et 45 députés, aurait donc son groupe, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986. Chez Ensemble, la coalition qui regroupe la REM, le MoDem et Horizon, on aimerait avoir les coudées franches, ne pas avoir besoin de se chercher des alliés, mais avec entre 290 et 330 sièges, l'avance n'est pas si confortable que ça, prévient Stéphane Zumsteg chez Ipsos.
Si la dynamique à gauche devait être renforcée par rapport à ce qu'on a pu observer ces dernières semaines, et si la NUPES devancer de 4, 5, 6 points la République en marche, eh bien ce rapport de force en siège pourrait être inversé. En aucun cas, aujourd'hui, la majorité absolue ne semble acquise définitivement pour la majorité présidentielle. Le scénario le plus probable, c'est une victoire, une amplification des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, mais il n'est pas exclu que ce soit la gauche qui l'emporte si elle poursuit cette dynamique.
Alors pourquoi cette prime aux candidats macronistes? Eh bien parce que l'abstention, vous le disiez, serait très forte, peut-être même plus qu'en 2017, avec moins d'un électeur sur deux dans l'isoloir, ce qui arithmétiquement, rend quasi impossible les triangulaires. Or, au deuxième tour, dans les 577 duels probables, les réserves de voix sont nettement plus favorables aux candidats de la majorité sortante.
Et rappelons que 14 ministres sont candidats aux législatives. S'ils perdent, ils devront démissionner, a précisé ce week-end l'Élysée. Autre information de la matinée, elle émane de nos confrères de France Bleu Nord. Le sénateur du Nord, Marc-Philippe Daubresse, ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, est hospitalisé dans un état préoccupant après un accident de voiture sur autoroute près de Dijon.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
C'est un jeune homme de 21 ans au crâne rasé et à la tête basse. Le sergent Vadim Chichimarine, premier soldat russe jugé pour crime de guerre en Ukraine depuis le début de la guerre. Il a été condamné ce matin à la prison à vie. Lors du procès la semaine dernière à Kiev, il avait reconnu avoir tué un civil dans un village du nord-est du pays. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En direct de Kiev avec nous, vous avez assisté au dénouement de ce procès ce matin.
Oui, c'est une peine sans surprise de prison à vie avec deux circonstances aggravantes. Le fait d'avoir été en groupe et le fait que la victime soit une civile âgée. En revanche, la Cour a salué le fait que l'accusé coopère durant l'enquête. C'est une peine sans surprise pour un procès, vous savez, qui se veut exemplaire. L'Ukraine veut montrer que, contrairement à la Russie, ici la justice est indépendante et juste. Il faut dire que la presse du monde entier est là. Dans cette cour d'appel de Kiev, il y a des Japonais, des Français, des Anglais, des dizaines de caméras et de journalistes, car il s'agit du premier procès de ce genre. D'autres d'ailleurs sont annoncés dans les semaines à venir, mais ils n'auront pas le même impact. Alors les trois magistrats professionnels sont allés dans le sens de l'opinion devant un accusé qui est resté debout, la tête penchée en avant, durant toute la lecture du verdict qui a duré une heure. Les Ukrainiens attendaient un jugement sévère et juste, qui soit à la hauteur de la colère qui gronde dans leur cœur, mais en même temps, ils savent que le jeune Vadim Chichimarine, 21 ans, qui a plaidé coupable d'avoir tué un civil qui ne portait pas d'armes dans l'est de l'Ukraine, eh bien n'est qu'un pion dans cette guerre. Ils savent que ce gamin, aux mains ensanglotées, n'avait rien à faire dans ce drame, et certains aimeraient qu'il soit tout simplement échangé contre des prisonniers ukrainiens, notamment les fameux héros de l'usine d'Azovstal.
Nathanaël Charbonnier en direct de Kiev avec Marc Garvenès pour France Inter. L'Ukraine reconnaît souffrir dans le Donbass à l'est. L'essentiel des troupes et des armements russes y est massé selon les Ukrainiens. La ville de Severodonetsk est bombardée 24 heures sur 24. Et le président Zelensky continue de mobiliser tous azimuts. Par visioconférence à l'étranger, il intervenait ce matin devant les participants au sommet de Davos en Suisse. Envoyé spécial de France Inter, Laurent Kramer, le président Zelensky, Laurent, appelle déjà les décideurs économiques à envisager la reconstruction de l'Ukraine, se projeter après la guerre.
Si les dégâts sont énormes, la reconstruction de l'Ukraine s'annonce comme un chantier d'avenir pour toute l'économie occidentale. Nous allons créer un immense fonds de soutien à l'économie ukrainienne, explique à Davos le président Zelensky.
Mesdames et messieurs, nous proposons au monde de créer un précédent dans le système de la reconstruction de ce pays après la guerre, pour montrer à ceux qui rêvent de détruire leurs voisins que la guerre ne sert à rien. Je vous invite à prendre part à cette reconstruction. Il y aura énormément de travail. Près de 500 milliards de dégâts, des villes et des industries entières à reconstruire.
L'Ukraine a également besoin du soutien actif de l'économie mondiale, ne plus commercer avec la Russie, envisager un embargo massif dès aujourd'hui sur l'ensemble de l'économie en Russie. Un corridor est également nécessaire pour faire tomber le blocus qu'imposent les Russes aujourd'hui sur les ports ukrainiens, blocus qui empêche l'exportation de 10 millions de tonnes de blé et de tournesol vers le monde entier. Tout cela est possible dès aujourd'hui, insiste Volodymyr Zelensky. L'Ukraine manque de temps et la Russie ne devrait pas pouvoir imposer ce blocus et faire peser le risque d'une famine pour le monde entier. À Davos, Laurent Kramer, France Inter.
Et par ailleurs, Zelensky dresse un bilan très lourd d'un bombardement russe le 17 mai sur une base ukrainienne, 87 morts. Lui, on l'a beaucoup vu comme chef de file de ceux qui se battent pour aider l'Ukraine à s'armer contre la Russie ces dernières semaines. Mais Joe Biden et pour les États-Unis, la priorité numéro un reste de contrer la montée en puissance de la Chine. Le président américain est en tournée en Asie. Après la Corée du Sud, l'autre pays clé sur lequel s'appuyer contre Pékin, c'est le Japon. Et lors d'une conférence de presse avec le premier ministre Kishida, Joe Biden avertit, si Taïwan est attaqué militairement, les États-Unis défendront l'île. France Inter au Japon, Karine Nishimura.
Renforcer l'alliance avec les États-Unis face aux risques accrus venus de Chine ou de Russie dans la région asiatique, c'est le principal sujet de préoccupation dont a fait part le Premier ministre Fumio Kishida à Joe Biden. Mais pas question de tout attendre des États-Unis protecteurs, le Japon est prêt à faire des efforts considérables pour se défendre.
Nous allons radicalement renforcer la défense du Japon et pour cela j'ai fait part de ma détermination à y consacrer un budget en sensible hausse.
Se sentant sous la triple menace de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord, le Japon serait prêt à quasiment doubler son budget de défense à 2% du produit intérieur brut. De son côté, le président Biden a réaffirmé son soutien plein et entier et mis en garde la Chine contre toute tentation d'envahir Taïwan.
Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés du Japon et d'autres nations pour ne pas laisser cela se produire.
Êtes-vous prêt à défendre militairement Taïwan si la Chine tentait de s'en emparer par la force ? A questionné une journaliste, la réponse a été claire.
Oui, c'est l'engagement que nous avons pris.
Par sa détermination, Joe Biden renoue avec une priorité, asseoir la puissance stratégique des États-Unis en Asie-Pacifique. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Un mort à l'ambassade du Qatar à Paris ce matin. Un vigile qui travaille à l'ambassade a été tué par un homme de 38 ans qui a été arrêté après les faits. Un collège fermé, un EHPAD touché, quelques 340 maisons et un millier de voitures. Les orages en début de nuit dernière ont fait de gros dégâts à Châteauroux, dans l'Indre. Il a fallu abattre une dizaine de chênes centenaires le long d'une nationale. Dans la longue file d'attente, devant les locaux d'un assureur ce matin, Justine Claude, France Bleu Berry, a croisé Claude. Il habite Déols, aux portes de Châteauroux.
23h30, un orage pas possible. Des grêlons comme des missiles. Je sais pas, 200-300 grammes le grêlon, balle de tennis quoi. Et ça fait des dégâts, bon, toiture, mobilier de jardin, ça c'est même plus la peine, il n'y a plus rien. Et les voitures, alors les voitures cabossées de partout, hein, côté, dessus, sinistre total. Et bon, nous on a de la chance, on est encore à l'abri, mais il y a certaines personnes sur Château, n'ont plus rien quoi.
Et du coup là vous faites déjà la queue pour...
Pour déclarer sinistre, parce que là ça a l'air d'être bloqué en ligne sur internet. Donc on est obligé de se déplacer avec quelques photos qu'on a fait ce matin quoi, mais ouais, ça s'arrête là quoi. Patience. Trentaine de personnes devant nous, on attend.
Et les orages ont également fait des dégâts dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres et la Vendée. On retrouve le bulletin météo en fin de journal. Le nouvel archevêque de Paris prend ses fonctions aujourd'hui. Monseigneur Ulrich, à 71 ans, il vient de Lille. Ça se passera lors d'une messe en l'église Saint-Sulpice, qui est celle de l'archevêque, le temps des travaux à Notre-Dame. Au soir du premier conseil des ministres du gouvernement Borne, ce n'est pas le ministre de l'Emploi, de la Santé, de la Justice ou des Affaires étrangères qui est l'invité du 20h de TF1. C'est le ministre du football français, Kylian Mbappé, va encore vivre une journée hors norme. Un salut aux supporters du Parc des Princes dans un peu plus d'une heure, 14h30, puis conférence de presse à 15h pour en dire plus sur ses 3 années de contrat supplémentaire à Paris et donc le 20h de TF1. Cela faisait des semaines que le feuilleton Mbappé tenait beaucoup de monde en haleine. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
L'une des voix du foot en France, l'une des plumes de l'Équipe. Vous avez des détails sur les conditions financières de ce contrat de 3 ans?
Non, pas du tout. On a une idée générale qui est probablement entre 80 et 100 millions d'euros par an en termes de salaire et de droits d'image.
Oui.
Et qui est sans doute aussi d'une prime à la signature qui peut s'approcher de ce montant. Donc c'est le... On peut probablement dire que Kylian Mbappé devient le joueur le plus cher du monde.
C'est l'argent qui a fait la différence avec le Real Madrid ?
Non, c'est bien sûr pas l'argent qui a fait la différence. Enfin, je dis bien sûr, c'est évidemment pas évident et c'est le premier soupçon qui vient à l'esprit. C'est l'argent qui a fait la différence dans le sens où il a fallu que le PSG lui propose au moins autant que le Real Madrid pour qu'il prenne une décision qui soit dégagée justement de ce critère-là. C'est l'argent parce qu'il fallait que le PSG en donne autant, mais c'est pas l'argent parce que justement le Real en donnait autant. Donc en fait c'est autre chose. Le Real aujourd'hui est quand même assez peu fondé à critiquer la position du PSG alors qu'il a construit sa propre gloire sur des transferts mirifiques et sur des dettes. C'est-à-dire il a jamais convaincu les galactiques grâce au climat de Madrid. Mais effectivement je pense que c'est des ressorts un peu plus méconnus chez les sportifs de haut niveau pour le grand public qui ont décidé Kylian Mbappé. Pour moi, c'est de l'ordre de l'orgueil, de la trace que veut laisser un champion dans l'histoire. Et il s'est dit qu'il avait plus de chances de laisser une trace peut-être en gagnant la Ligue des Champions que PSG, qu'en gagnant la 14e ou la 15e du Real Madrid.
Et à l'approche d'une Coupe du Monde, alors où la France défendra son titre et au Qatar qui plus est, on a l'impression que c'était presque une question de souveraineté et pour la France et pour le Qatar que Mbappé reste au PSG. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, Vincent Duluc ?
Il y a complètement quelque chose de cet ordre-là pour le Qatar qui effectivement ne pouvait pas imaginer que Kylian Mbappé soit éventuellement champion du monde en novembre, décembre, le 18 décembre à Doha, sous le maillot d'un autre club que le sien. Et donc effectivement, ça aurait été une gifle diplomatique et pour le Qatar qu'il n'aurait pas accepté. Pour Mbappé, la situation est un peu différente. C'est plus une question de souveraineté, c'est une question que parfois il y a un risque à changer de club une année de Coupe du Monde. Et là, quand la Coupe du Monde arrive 2 à 3 mois seulement après un transfert, ce qui n'arrive jamais puisqu'en général c'est au bout de la saison, le risque était encore plus élevé. Même si on a plutôt l'impression qu'Mbappé est capable de tout assumer.
Et il y a eu des interventions politiques, et je parle française, on sait que les trois précédents présidents, enfin en comptant l'actuel, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ô combien sont fans de foot et du PSG pour Sarkozy, il y a eu des interventions politiques à votre connaissance ?
Je n'y crois pas beaucoup, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, j'ai un peu de mal à imaginer leur matérialité en dehors d'un jour où le président peut croiser Mbappé en disant « j'espère que vous allez rester chez nous ». En dehors de ça, j'imagine pas une raison d'État qui s'impose un môme de 23 ans.
On a déjà vu, Vincent Duluc, un club autant tourné autour d'un joueur. On a l'impression que Neymar et Messi sont des seconds couteaux à côté d'Mbappé.
Alors, on a l'impression que Messi et Neymar sont les seconds couteaux parce que cette saison, ils ont été des seconds couteaux. Cette saison, la réalité est que le PSG n'aurait peut-être même pas été champion de France sans Mbappé, qui a porté l'équipe d'un bout à l'autre parce que Neymar est devenu inconstant, notamment en cause de la vie parisienne. Et parce que Messi est devenu un peu plus, j'allais dire un peu plus vieux, c'est peut-être un peu exagéré, mais qu'il lui a fallu gérer un changement qu'il a eu du mal justement à gérer. Après, l'importance politique, effectivement, c'est un levier que le clan Mbappé a toujours actionné. Il a toujours demandé un peu à avoir le contrôle du projet parisien. Et là, un peu, on est au cœur de cette volonté de contrôle. Mmh. On n'en connaît pas encore les limites. On sait juste qu'effectivement, c'est sans précédent.
Et on verra ce qui est dit à 15h et dans le 20h de TF1. Merci beaucoup, Vincent Duluc, d'avoir pris quelques minutes pour nous. Nous parlons cinéma à présent. Projection hier soir à Cannes du deuxième film français de la sélection officielle après Desplechin. Vendredi, c'est Valeria Bruni-Tedeschi qui a monté les marches hier pour Les Amandiers. Plongée 13 années 80 dans les coulisses de l'école de théâtre créée à Nantes par le grand Patrice Chéreau. C'est un film, Alexis de Meyer, sur l'art dramatique, mais aussi sur la jeunesse et les années sida.
Dans les années 80, les aspirants comédiens se bousculent au Théâtre des Amandiers pour tenter d'intégrer l'iconoclaste école de théâtre. Valeria Bruni-Tedeschi, elle-même ancienne élève des Amandiers, trouve le ton juste pour cette mise en abîme d'acteurs jouant des acteurs en train d'apprendre à jouer. La figure tutélaire de Patrick Chéreau plane sur ce film et la cinéaste a la bonne idée de ne pas être hagiographique.
Au départ, il était épargné au scénario. J'étais très timide et j'arrivais pas à le critiquer. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait pas le respecter. Et lui, dans ses mises en scène, il était irrespectueux envers ses personnages. Donc moi, par respect pour son travail à lui, j'ai perdu le contrôle du personnage.
Ce film très personnel, comme les affectionne Valeria Bruni-Tedeschi, parvient à éviter l'entre-soi. Et au-delà du portrait d'une troupe de théâtre, le film nous offre aussi une plongée convaincante dans la décennie 80.
C'est l'époque de ma jeunesse, donc c'est très émouvant pour moi de raconter un coup de téléphone dans une cabine téléphonique. On ne dit pas la même chose dans une cabine téléphonique. Le fait qu'on fumait, par exemple, tout le temps, partout, tout ça fait que, pour moi, c'était comme une grande, grande, grande charge d'émotion.
Les Amandiers, avec son grain très 80s, possède de grandes qualités formelles. Le jeu physique des jeunes comédiens est mis en valeur par un cadrage au plus près des corps.
Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant.
Voilà donc pour ce film sur le théâtre des Amandiers, aujourd'hui présenté en compétition à Cannes, le dernier film de David Cronenberg et du sud-coréen Park Chan-wook. Dans un instant, la météo.
Ah chérie, le monsieur qui veut nous cambrioler est passé aujourd'hui pour savoir quand on part.
Et tu lui as dit août ?
Oui, il voulait venir le week-end du 15, c'est plus calme.
Et tu lui as dit qu'on est abonné à Omiris ?
Oui, mais alors là il est parti en courant.
On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS AgriCNAPS.
Allô Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout seul sans moi et vous savez, avec ses oreilles.
Il a bien pris ses deux paires d'appareils auditifs.
Ah oui, je les ai rangés moi-même.
Et il entend très bien avec.
Oui, bien sûr.
Bon, alors tout va bien. Il peut être tranquille et nous aussi.
Avec Chin Audio, la sécurité pour 1 euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix.
Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus jusqu'au 31 août 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Flelo Acousticien. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
France Inter. M.
Les Crimes du Futur, un film de David Cronenberg, en sélection officielle au Festival de Cannes.
It is time to stop seeing. It is time to listen.
Dans ce monde du futur imaginé par Cronenberg, l'être humain sera-t-il capable de s'adapter pour survivre et s'épanouir?
Have we just been made obsolete?
Maybe.
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, Les Crimes du Futur, le 25 mai au cinéma, un film France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors l'ambiance est rafraîchie, il y a des averges et des orages dans l'Est.
Oui, des températures en baisse, très nettes sur l'Ouest. 14 à 19 degrés attendus près de la Manche, 18 à 23 degrés sur une grande partie du pays. Pour un exemple, 21 degrés attendus à Bordeaux cet après-midi, on en avait 33 hier encore. Oui. On attend tout de même 24 à 30 degrés cet après-midi de la Méditerranée jusqu'à l'Alsace. Là, ça reste élevé pour la saison. Côté ciel, pas mal de nuages, des averses. Alors elles sont fréquentes en ce moment de la Normandie vers l'Île-de-France Île-de-France et le Centre-Val de Loire. Elles vont se décaler vers l'Est. On en attend de nouvelles sur la Bretagne, puis sur les Pays de la Loire, et puis des frontières du Nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, des averses nombreuses cet après-midi, parfois orageuses, avec de la grêle possible. On n'oublie pas le vent, il souffle sur une grande partie du pays. Et puis pour avoir plus de soleil, direction le pourtour méditerranéen et la Corse. Un petit mot pour demain, ce sera changeant entre éclaircies, nuages, quelques averses et des températures encore en baisse.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Deux fils rouges avec nos invités jusqu'à 13h45. Petit 1, comment expliquer les paradoxes du marché de l'emploi? La croissance est nulle en ce début d'année. Et pourtant, le marché de l'emploi, lui, continue de croître. Le chômage est au plus bas depuis 2008. Et pour autant, autre paradoxe, la précarité n'a pas disparu. Si la plupart des salariés sont en CDI, au moment de l'embauche, la très grande majorité occupe un emploi précaire, CDD, intérim. 5 millions de travailleurs environ sont en quête d'un CDI. Et la plupart des emplois dits temporaires ne le sont pas réellement. Les salariés enchaînent les missions dans la même entreprise, voire au même poste. C'est le troisième paradoxe. Autre constat, remplir l'objectif du plein emploi fixé par Emmanuel Macron pour ce second quinquennat passe par des réponses aux difficultés des personnes les plus éloignées du marché du travail et ou âgées. Le taux d'emploi des seniors est une des faiblesses de l'économie française. C'est le halo du chômage, cette zone grise entre intégration et exclusion du marché du travail. On en vient à notre petit 2, quelle solution pour ces personnes? Nos invités du jour mettent en avant le CDI d'employabilité. Ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. C'est un dispositif méconnu qui existe depuis 3-4 ans et qui répond, en tout cas c'est l'espoir, à nos deux points à la fois. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions sur le marché du travail. Nos invités sont aujourd'hui Philippe et Valérie Bazin, fondateurs de la plateforme moncdi.fr et auteurs de ce livre au titre Choc, un CDI pour tous les salariés, c'est possible. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Comment explique-t-on d'abord ce constat que font beaucoup de gens, beaucoup de familles, des intérimaires postés durablement dans une même entreprise qui enchaîne soit les contrats d'intérim, soit les CDD? Est-ce que c'est forcément une arnaque ou ça correspond à des besoins des entreprises aussi?
Alors non, bien sûr, ce n'est pas une arnaque. Ça correspond effectivement à un besoin des entreprises depuis déjà plusieurs décennies. Ces entreprises ont besoin de flexibilité dans le temps sans pouvoir embaucher à l'instant T.
Oui.
Donc elles ont besoin de cette flexibilité. Mais en même temps, vous avez, comme vous l'avez très justement dit, 5 millions de personnes qui travaillent régulièrement dans les mêmes entreprises. C'est ce que prouvent les dernières études. Sans pour autant qu'elles aient accès à un CDI, alors qu'il est possible de leur en fournir un.
Je parlais de ces contrats qu'on enchaîne, et c'est pas forcément un manque de volonté des chefs d'entreprise, ce besoin de souplesse. Ce livre part de votre parcours. Vous avez commencé tous les deux par fonder une petite société dans le secteur électronique et cartes à puces. C'était quand ?
C'était 2002.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Valérie Bazin, vous aviez du mal à embaucher.
Oui, on avait du mal à l'époque à embaucher parce que d'ailleurs nous n'avions pas les moyens
d'embaucher. Faut que vous vous rapprochiez du micro tous les deux.
Nous n'avions pas les moyens d'embaucher une personne à temps complet. Ouais. Donc nous avons trouvé, à l'époque il y avait une personne qui était à la retraite. Ouais. Elle était senior d'ailleurs. Ouais. Et nous lui avons proposé un CDI. À mi-temps en fait, ça a commencé comme ça.
Parce qu'on était à une époque où le marché du travail... Allez-y.
Oui, c'était trop tôt encore pour les seniors.
Ouais. Et le marché du travail se transformait, c'est le résultat de la crise des années 80-90, la fin de l'emploi toute la vie dans une seule entreprise. Ces seniors qui étaient brusquement licenciés et qui se retrouvaient sans compétences pour trouver ailleurs. Alors vous avez lancé une société dans le secteur de l'intérim justement pour les seniors, 50 ans et plus. Pourquoi au fond l'emploi des seniors est le talon d'Achille de l'économie française, Philippe Bazin ?
Alors, c'est le talon d'Achille tout simplement parce que, paradoxalement, les entreprises ont des seniors dans leur rang, mais pour autant, quand il s'agit d'en recruter des nouvelles, effectivement, ça passe pas. Et on s'est aperçu tout simplement que c'était juste une question d'adaptabilité. Est-ce que la personne senior va être capable de faire son deuil de son ancienne expérience? Est-ce qu'elle va être capable de s'adapter? Donc, par rapport à ça, on avait juste créé un test de personnalité spécifique aux seniors qui fonctionne toujours, dont on se sert toujours.
Mais qui est important, c'est intéressant ce test de personnalité. parce qu'au fond, vous disiez, passé un certain âge, il faut mesurer la capacité d'un senior à s'adapter, oui, à changer d'univers, changer de poste, changer, ouais, d'hiérarchie.
C'est un peu, on va dire que c'est un petit peu dramatique de penser cela, mais cela dit, c'est la réalité, puisque bien souvent, quand vous avez des personnes qui ont travaillé 30 ans au même poste dans la même entreprise, on va dire que leur employabilité, arrivée à l'aune des 50 ans ou des 60 ans, effectivement, a été, ouais, largement diminuée. Donc la question, c'était de mesurer cette employabilité et cette capacité à se remettre en cause. Et ensuite, nous avons embauché ces personnes seniors en CDI, puisqu'il s'avérait que c'était beaucoup plus simple de les mettre à disposition chez nos clients quand elles étaient déjà en CDI chez nous. C'est l'origine de la société aujourd'hui.
Voilà, placé par exemple dans des centres d'appel, on va venir à la société et à ce CDI d'employabilité. Je voulais qu'on précise un autre point. Ils étaient embauchés dans le cadre de travail à temps partagé, de groupements d'employeurs, bien souvent. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Valérie Bazin.
Non, laissez Philippe parler.
Alors, on va laisser Philippe parler.
Oui, alors, les groupements d'employeurs...
Vous savez que c'est pas bien, il faut que les femmes prennent la parole, hein, sinon c'est moi qui vais me faire gronder après.
Mais si vous voulez, je suis très forte sur le terrain, je n'ai pas de problème. Alors, avec mes clients, sur le terrain, je n'ai pas de problème. Effectivement, devant vous, je suis...
Je vous interrogerai sur le terrain et les exemples concrets. Cette notion de travail à temps partagé et de groupement d'employeurs, Philippe Bazin.
Donc, les groupements d'employeurs, c'est une très bonne solution, c'est un modèle qui est associatif. Donc, nous avons démarré par ce modèle-là pour mettre à disposition nos salariés qui étaient à temps plein chez nos clients, ouais, pendant plusieurs années. Il s'avérait juste qu'à l'époque, c'était 2006-2007, c'était compliqué puisque c'est un format associatif, donc problème de distribution des bénéfices, puisque, ouais, obligatoirement il y en avait. Donc on a bifurqué sur un mode plus privé qui est l'entreprise de travail à temps partagé en 2011, qui nous permettait de faire un peu la même chose, mais avec une facilité vis-à-vis des grandes entreprises pour déployer ce modèle et verser de l'intéressement, de la participation, une mutuelle à nos salariés. C'était beaucoup plus difficile de le faire avec les groupements d'employés.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié qui signe chez vous à plusieurs employeurs, c'est ça que ça veut dire, et qui partage son temps de travail entre plusieurs entreprises.
Voilà, il partage son temps de travail, il a un seul employeur, c'est nous, ouais, la personne est bien embauchée en CDI de droit commun au sein de notre société, et en revanche, après, effectivement, il va pouvoir faire 3 ans dans une entreprise, 4 ans dans une autre entreprise, et ainsi de suite. Et au final, ça fonctionne tellement bien que plus de la moitié de nos salariés, aujourd'hui, finissent par être embauchés par nos clients.
Alors, venons-en à ce CDI d'employabilité qui existe depuis 2018-2019, et on va prendre des exemples concrets. D'abord, comment ça marche, ce CDI d'employabilité? C'est pour qui, et comment ça marche?
Alors, le CDI d'employabilité, c'est un cas particulier du travail à temps partagé qui a été créé en 2005. Donc, le CDI d'employabilité, ça a été voté dans la loi Choisir son avenir professionnel de 2018, et cela concerne 5 catégories de personnes. Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis plus de 6 mois, celles qui sont bénéficiaires des minima sociaux, en situation de handicap, les seniors, et, ouais, la dernière catégorie, les personnes qui ont un faible niveau de qualification, c'est-à-dire BEP ou CAP.
Donc, des personnes plutôt éloignées de l'emploi.
Exactement.
Qui signent donc un CDI.
Oui.
Pour une durée par définition indéterminée, avec des engagements de formation qui sont forts. C'est ça qui est important aussi.
Oui, c'est toute l'originalité de ce dispositif, c'est qu'il permet de commencer à anticiper les problèmes du marché de l'emploi dans les 10-15 ans qui viennent. On sait que l'intelligence artificielle ou la robotisation vont modifier ou supprimer un certain nombre d'emplois. Aujourd'hui, l'objectif de ce contrat, c'est d'anticiper ces problématiques en disant on double le CPF de l'ensemble de nos salariés.
Compte personnel formation.
Le compte personnel, ouais, de formation. Il s'agit bien d'un CDI de droit commun, ouais, avec des emplois de moyenne longue durée, donc 2, 3, 4, 5 ans. Nous arrêtons à 5 ans puisqu'on veut éviter le problème qu'on avait connu avec les seniors à l'époque. On veut surtout pas que les personnes fassent 30 ans au même poste. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il souhaite, bien évidemment, mais nous disons plutôt qu'il vaut mieux, pour arriver à 50 ans et garder son employabilité, avoir fait des postes et changer de poste tous les 4, 5, 6 ans.
Et qui les forme? Les entreprises successives dans lesquelles ils interviennent?
C'est nous qui les formons, oui, puisqu'il s'agit bien de nos salariés. Donc c'est bien notre budget formation et le doublement du CPF, c'est bien nous qui le mettons en place. Et on va former effectivement nos salariés avant la prise de poste, pendant la prise de poste et à l'issue du poste ou de la mission, puisque l'idée des 500 euros d'abondement, c'est d'arriver à 5 ans avec un budget de 5000 euros. Et un budget de 5000 euros, c'est un CPF, c'est
CQP.
Un certificat de qualification de professionnel. Ouais. Donc, en gros, c'est 400 heures. 400 heures, ça permet de changer de métier. Et c'est précisément ce qu'on souhaite, ouais, c'est de pouvoir donner une deuxième corde à son arc à des personnes qui ont un niveau de qualification et de leur donner un deuxième métier dans les années qui viennent.
Alors, Valérie Bazin, allons sur le terrain. Des exemples concrets. Qui est-ce qu'on embauche comme ça via ce CDI d'employabilité?
Eh bien, soit des intérimaires qui sont en intérim depuis... J'ai des personnes qui sont en intérim depuis 12-13 ans. Ouais. voire 5 ans. Enfin, le minimum, c'est en général 5 ans. Des personnes qui ont en moyenne 50, 55 ans.
Oui.
Et qui n'ont pas de diplôme, qui sont pratiquement sans diplôme, et à qui on n'a jamais proposé un CDI.
Oui.
Ou qui ne parlent pas français. Donc la première formation que nous mettons à disposition, c'est justement une formation au français.
Oui.
Et quel que soit l'âge en fait de nos salariés, même s'ils ont passé les 45 ans ou des jeunes seniors, les entreprises les embauchent au bout de 3 ans. Parce que justement, leur a permis d'acquérir soit des formations, soit l'apprentissage de la langue française.
Et c'est un CDI avec tous les avantages qui vont avec.
C'est un CDI avec tous les avantages.
Les congés payés et la possibilité de, si j'ose dire, d'asseoir sa vie, c'est-à-dire quand on veut par exemple prendre un emprunt, c'est plus facile si on a un CDI qu'un CDD. Question de Quentin au standard pour vous. Bonjour Quentin.
Oui, bonjour Bruno, bonjour Philippe et Valérie.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Alors, juste avant de poser ma question, je voulais revenir un petit peu sur mon cas personnel très rapidement.
Oui.
Mais j'ai été embauché jusqu'à l'été dernier dans une entreprise d'industrie électrique et gazière de la région lyonnaise. Et je suis resté dans l'entreprise 28 mois en CDD avec deux CDD respectifs. Le premier 10 mois pour un remplacement et j'ai enchaîné avec le délai légal de 10 jours avec le deuxième CDD sur un surcroît d'activité de 18 mois. Donc 28 mois dans l'entreprise et l'été dernier, donc j'ai pas été conservé et... la magie ou pas du marché de l'emploi, 4 mois après, le poste pour lequel, sur lequel j'étais a été de nouveau pourvu par une autre personne pour 18 mois. Alors ma question elle est très simple, pourquoi du coup les entreprises, et notamment ces grandes entreprises, emploient plus de CDD ou accumulent les CDD plutôt que d'embaucher pardon, en CDI ?
Philippe Bazin, quelle réponse peut-on faire à notre auditeur ?
Alors effectivement, c'est une situation qui est difficile, mais qui est malheureusement partagée par des millions de personnes en France. Ça tient tout simplement à différents facteurs. Le premier, il peut y avoir un manque de visibilité de l'entreprise qui ne sait pas forcément s'engager sur plusieurs années. Donc du coup, elle aura recours au CDD ou à l'intérim. Et en même temps, et on le sait, 85% des Français aujourd'hui sont en CDI, mais 87% des nouvelles embauches se font en CDD ou en contrat court. Donc il y a bien un paradoxe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et vous en êtes victime malheureusement, et c'est précisément avec des dispositifs comme le nôtre, on n'est pas là pour, comment dirais-je, porter un jugement sur la situation actuelle, elle est telle qu'elle est, et nous on est là pour apporter une solution, et cette solution, ce sont des tiers employeurs responsables comme nous, qui allons proposer un CDI, de droit commun encore une fois, avec de la formation pour justement pallier cette situation qui est, somme toute, pas très agréable et pas normale, ni pour vous, ni pour l'entreprise qui aimerait avoir du personnel comme le sien, mais qui ne peut pas le faire à l'instant T.
Vous gagnez votre vie comment ? Dans ce système-là.
Le modèle économique.
Oui,
alors on est sur un modèle économique assez proche de celui du travail temporaire, c'est-à-dire c'est le salaire brut de notre salarié qui va être majoré d'un coefficient multiplicateur, donc un modèle très courant dans ce domaine d'activité.
Le CDI d'employabilité, il existe depuis 2018, il est en œuvre, me semble-t-il, depuis 2019. Il y en a combien, quoi ? Quelques milliers aujourd'hui en France, pas tellement plus ?
Alors effectivement, il y en a quelques milliers.
Ce que vous dites, on peut embaucher 1 million de personnes comme ça.
Oui. Alors, il y en a quelques milliers, effectivement. Le dispositif est toujours en période d'expérimentation et je voulais saluer la Première Ministre aujourd'hui qui était l'ancienne ministre du Travail qui nous avait aidé à la prolongation de ce dispositif. Donc, on n'a pas de doute qu'il le sera à l'avenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que 1 million de personnes, c'est très simple. 4,5 millions de travailleurs précaires. 1 million, c'est à peine un tiers. Quand on sait aujourd'hui que 70% des contrats courts travaillent tout le temps et régulièrement dans les mêmes entreprises, embaucher un tiers sur 70, on va dire que c'est quand même très facile à faire.
Ça marche dans quel secteur ? C'est dans l'industrie que ça marche le plus ? C'est dans le tertiaire faiblement qualifié ? Où est-ce que ça marche le plus ?
Non, alors ça marche effectivement dans l'industrie, c'est notre domaine de prédilection. Ça peut marcher dans le BTP, ça peut marcher en fait dans tous les secteurs d'activité qui sont concernés par les intérimaires et par les CDD. En d'autres termes, tous les secteurs.
Merci à tous les deux
Merci
d'être venus
Merci.
Dans les studios de France Inter. Et ce livre s'appelle donc Un CDI pour tous les salariés. C'est possible, préface de Nicole Notat, l'ancienne patronne de la CFDT. C'est aux éditions de l'Aube, 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire dans 10 minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Mais dites-moi, qui était le tout premier ministre de l'Environnement ?
Parce qu'ils sont tous maintenant ministres de l'écologie autour de la table. Eh bien c'était Robert Pujol, il y a 50 ans.
Avant cela, feuilleton, ce sera donc le vif de l'histoire dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton, dans les deux semaines qui viennent, format particulier, nous entendons les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Alors que Roland Garros a commencé hier, une joueuse de tennis est à votre micro aujourd'hui, Alizée Cornet. Elle va entrer en lice pour le premier tour en ce début de semaine. On en a l'habitude à 32 ans de la voir à Roland Garros. Alizée Cornet, c'est sa 18e participation, mais Elle est aussi romancière. Désormais, Frédéric, elle a publié au tout début du mois chez Flammarion La valse des jours.
Une saga familiale en hommage, dit-elle, aux femmes de sa vie, en l'occurrence sa mère, sa grand-mère et sa tante. Elle s'est inspirée de leurs histoires pour écrire ce premier roman. Mais le groupe dont elle m'a parlé est lié à sa propre histoire. C'est le groupe anglais Muse.
Je l'ai découvert en 2005, j'avais 15 ans. Donc ça correspond un peu en plus au début de ma carrière, c'est ça qui est drôle. C'est un ex-petit ami qui s'appelait Emery qui m'a fait découvrir ce groupe et j'ai entendu les premières chansons grâce à lui. Il m'a même appris à jouer quelques morceaux au piano, puisque je faisais du piano à l'époque. Et ça a été vraiment juste un coup de foudre en fait. À l'époque, j'étais très rock'n'roll et les premiers albums de Muse sont très dans cet esprit-là, beaucoup moins commerciaux qu'à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu lâché depuis 5-6 ans, mais on va dire que pendant 10 ans, ça a été ma playlist principale. Et je les ai vus en concert, j'ai pleuré au Stade de France quand je les ai vus pour la première fois. Ils représentent beaucoup de choses pour moi.
Le titre Butterflies and Hurricanes qu'a choisi Alizée Cornet, Frédéric.
Extrait du troisième album studio de Muse paru en 2004. Un titre dans lequel elle a régulièrement été puisée de l'énergie et de la confiance aussi.
J'ai choisi une chanson que j'écoutais souvent avant mes matchs à l'époque, qui me motivait. Je me souviens, je faisais de la corde à sauter avec cette chanson à fond dans les oreilles. J'avais l'impression que j'allais tout défoncer. Quoi. Quand j'arrivais sur le court, j'étais en mode machine avec les dents qui rayaient le parquet avec cette chanson. J'aime bien cette chanson parce qu'elle monte en fait, elle monte en régime, elle commence doucement. Et puis après, il y a une sorte de flamme en fait qui s'anime. Et moi, c'est cette même flamme que j'ai finalement sur le terrain. Et c'était la préparation parfaite pour avant mes matchs. Et puis il y avait cette phrase en plus que je hurlais parfois quand j'étais un petit peu loin des gens à tue-tête. C'était « Best, you have to be the best ». Et j'étais pas the best, mais en tout cas j'avais envie de l'être. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a animée pendant très longtemps, cette envie d'être la meilleure tout le temps. Parfois qui m'a aussi bouffé un petit peu. Et cette phrase c'était « Ouais, je suis sur le court et je vais être la patronne ». Quoi. Et c'était Muse qui me le disait.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez fredonnée parfois sur le terrain ?
Non, pas trop. Alors après, une fois que je suis sur le terrain, c'est très rare que j'ai des chansons dans la tête. Je suis tellement concentrée qu'il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose.
Mais cette phrase-là, elle pourrait revenir éventuellement ?
Elle pourrait revenir, elle devrait même revenir. Ça me ferait du bien quand j'ai tendance à douter, à avoir des crises de confiance. Je pourrais me retourner un petit peu sur toutes ces années de carrière et me dire « Ouais, je ne suis peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux et c'est super honorable cette carrière-là. » Donc je pense que peut-être là, ça va me donner envie de le réécouter avant Roland-Garros. Tiens, voilà. Une petite piqûre de rappel avec cette chanson, ça ne me ferait pas de mal.
Butterflies and Hurricanes de Muse. C'était donc Frédéric, le choix de la joueuse de tennis Alizée Cornet.
Numéro 1 française qui tentera demain de se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros et qu'on retrouve également en librairie avec son premier roman La valse des jours, publié chez Flammarion.
Il y a Alizée Cornet et puis il y a Océane Dodin. Océane Dodin qui fait partie des éliminés du premier tour ce matin. Autre élimination de Marx dans le tableau féminin. Naomi Osaka, l'ancienne numéro 1 mondiale chez les garçons à Roland-Garros. Entrée en lice aujourd'hui de Richard Gasquet, Raphaël Nadal et Novak Djokovic. 13h49. Dans le feuilleton à partir d'aujourd'hui, nous entamons une série consacrée au roman en lice pour le prix du livre Inter. Il sera attribué dans 2 semaines exactement. Nous recevrons le ou la lauréate dans ce 13-14. 10 auteurs, départagés par le jury de lecteurs-auditeurs de France Inter. C'est ce qui fait toute la saveur de ce prix. La présidente du jury est cette année Delphine de Vigan. C'est Eva Bétan, évidemment, qui anime et organise le prix. Alors, premier auteur, à votre micro, Eva, aujourd'hui, Nicolas Mathieu, pour Connemara, chez Actes Sud. Connemara comme les lacs du Connemara, la chanson de Sardou.
Ce livre, c'est Hélène. Hélène a 40 ans, elle est diplômée, elle a une maison d'architecte, une famille comme on en voit dans les magazines. Ce qui l'attire dans les rendez-vous clandestins avec Christophe, qu'elle n'avait pas revu depuis 20 ans, c'est l'inversion de leur place dans l'échelle des prestiges. Ils viennent de la même jeunesse à Cornécourt. Il était la vedette, le beau gosse champion de hockey sur glace. Et aujourd'hui, il est commercial dans une entreprise aliments pour chiens quand elle est cadre dans une entreprise de conseil. C'est à ce point de rencontre que se situe le roman. Et on verra que la chanson de Sardou, elle participe à ce point de rencontre. C'est de là que vous écrivez, Nicolas Mathieu. C'est un point de friction entre deux mondes.
Oui, exactement. Moi, je me sens vraiment à cheval sur une ligne de front entre le monde d'où je viens, celui où j'ai atterri, c'est-à-dire le monde de la province, des gens finalement pas immensément diplômés, puis le monde où je suis arrivé, celui, voilà, les gens qui ont fait des longues études et qui finalement se sentent davantage à leur aise dans l'époque. Et ce sentiment d'être à cheval sur cette ligne de fracture est fertile.
Je vais vous lire un extrait qui m'a frappé. Hélène, donc, dans sa petite ville de Cornécourt, elle est la plus douée de l'école. Et elle commence à mépriser un peu, à être comme un bouddhiste, un petit procureur avec ses parents. Elle a quoi, 12, 13 ans? Je vous lis la page 215. Quand Hélène étale sa science, les reprend sur la prononciation d'un mot, socialiste et pas socialiste, expérience et pas expérience, sans parler de l'anglais, la gosse se foutant carrément de leur gueule quand ils s'aventurent à prononcer Dirty Dancing ou Star Wars. Quand elle leur coupe la parole, fait la maligne en citant Jean-Paul Sartre à table ou qu'elle lit Virginia Woolf dans le salon, sa mère s'emporte. Pour qui tu te prends? Tu crois que les gens vraiment intelligents méprisent leurs parents? Hélène assure que ça n'a rien à voir, elle aime simplement la vérité, l'exactitude, se cultiver, et elle a bien le droit de s'exprimer. C'est terrible. Quitter son milieu, ça passe aussi par le mépris de ce qu'elle appelle les gaines petits.
Le mépris et la honte, oui. Je pense qu'on commence à lire à travers les signes du monde d'origine comme à travers une tapisserie, quoi. C'est-à-dire, on voit la trame. Et puis tout ça devient insupportable. L'histoire d'un transfuge, c'est quelqu'un qui refuse son héritage. Donc oui, c'est une trahison. Et puis, le temps passant, je pense que on a honte d'avoir eu honte. C'est pas tellement qu'on se réconcilie, c'est qu'on se met à comprendre les gens qu'on a jugés.
Alors, venons-en au cabinet de conseil, parce que ça occupe une place importante de ce livre. Vous parlez de ménagerie néolibérale, de nouveaux prédicateurs, etc. De quoi sont-ils le symbole dans le monde d'aujourd'hui?
Alors, pour moi, pour les avoir vus beaucoup intervenir dans des tas d'entreprises, c'est l'esprit du temps en marche. C'est des gens qui sont vraiment taillés pour leur époque, qui ont fait les meilleures écoles, et qui prodiguent partout les mêmes conseils, qui reprennent l'idéologie de notre temps, l'idéologie qui est si puissante qu'elle s'ignore elle-même en tant qu'idéologie. Mais effectivement, cette idéologie de la performance, du retour sur investissement, elle a infusé du privé vers le public, et puis du public vers le gouvernement. C'est-à-dire que cette idéologie managériale, elle règne en maître jusqu'au plus haut sommet de l'État.
C'est là qu'intervient la chanson, Connemara. Souvent, les chansons dans les livres, elles sont générationnelles. Là, cette chanson, elle est plutôt sociale que générationnelle.
Ce qui m'a intéressé dans cette chanson, c'est le malentendu et l'œcuménisme. Vous savez, c'est la chanson qui clôt toutes les fêtes de HEC. Donc, c'est une chanson qui est écoutée un peu au second degré. Et en même temps, elle est écoutée dans des mariages, dans des bals du 14 juillet. Et donc, dans le lieu même de ce qui nous est commun, il y a des lignes de démarcation qui passent. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça que je raconte dans mes bouquins, toujours. Ce qui nous unit, ce qui nous fait fusionner même par moments. Et en même temps, ce qui reste des écarts irréductibles.
Nicolas Mathieu, auteur de Connemara chez Actes Sud en lice pour le prix du livre Inter. Toutes les interviews sont à retrouver en longueur sur notre site internet franceinter.fr.
France Inter. le 13-14.
Le premier conseil des ministres du gouvernement Borne s'est donc tenu ce matin. L'écologie est affichée comme une priorité de l'équipe. Pas moins de 4 personnes, dont un secrétaire général à la planification écologique, sont en charge du sujet qui est censé irriguer l'action de tous les ministres. Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire aujourd'hui, le premier ministère de l'Environnement qui avait été confié non pas à Pierre Poujade, l'homme du poujadisme, mais à Robert Poujade.
Le président Georges Pompidou, en 1971, avait taillé ce poste sur mesure au maire de Dijon, qui était une vraie personnalité politique avec un poids. On a beaucoup médit de Pompidou. Il donnait la priorité à la souveraineté industrielle, mais ne réapparaît-elle pas dans la titulature de Bruno Le Maire à Bercy ? Il a élaboré une stratégie nucléaire, mais n'est-on pas en train de la relancer? Bon, il voulait que les villes s'adaptent aux voitures, mais il défendait aussi les arbres. En tout cas, les platanes des routes du Sud, sur lesquelles s'enroulaient les voitures. En tout cas, il avait redécouvert le mot « environnement ». Terme français du XIIe siècle, mais qui était passé dans l'orbite de l'anglais. Au début des années 70, il existait à Washington une puissante agence fédérale de l'environnement et le Royaume-Uni avait créé le premier, un grand ministère de l'environnement. Et le mérite de Pompidou, ça a été de leur donner un petit frère à Paris.
Tout petit frère, doté de très peu de moyens.
Edgar Faure disait, vous serez d'abord, il zozotait, un ministère de la parole, vous brasserez des idées, si vous voulez, se peut vous en prêter sans frais. C'était un ministère dont on attendait qu'il agisse en commando dans les situations exceptionnelles les années précédentes. Un incendie de raffinerie à Fézin, la marée noire du Torrey Canyon avait lancé les premières alertes. C'était aussi ce ministère un chaînon de l'interministériel. Poujade s'insinuait le plus qu'il pouvait dans les échanges entre cabinets. Un jour, président d'une réunion sur le plan, Pompidou s'étonna de le voir paraître. Ah, vous, ici, aujourd'hui, on nous promet que toute la planification sera écologique. Mais c'est sûr, les moyens manquaient. Le ministère réussit néanmoins à arracher un peu de chair à plus puissant que lui, la surveillance des établissements dangereux, la protection des sites naturels classés, la chasse. Il s'établit en coucou dans un lieu prestigieux, l'hôtel de la Marine, rue Royale. Poujade, quelquefois, empruntait au locataire historique de l'endroit, quelques fusiliers marins pour faire le long du grand escalier une haie d'honneur aux visiteurs de marque. Mais de là à pouvoir imposer des lois dans le calendrier, c'était une autre affaire. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que des lois soient signées par ses lointains successeurs, Lalonde, Lepage, Voynet.
D'ailleurs, le titre que Robert Poujade a consacré à son expérience est resté, le titre du livre, Le ministère de l'impossible.
Oui, mais c'est un disciple du général. Apprenez, Bruno, qu'impossible n'est pas gaulliste. Et il concevait son rôle comme celui d'une administration de mission. La difficulté de la tâche est davantage apparue quand le ministère a essayé de devenir un ministère classique, vous voyez, solide, une ébauche de grand ministère. Alors il est apparu qu'il n'avait pas la main sur les administrations clés et qu'il comptait beaucoup d'adversaires. Qui plus est, sa ligne a été souvent sinueuse. Il ne faut pas oublier que certains des titulaires du poste, je pense à Corinne Lepage, dénonçaient l'addiction au nucléaire, je la cite, alors qu'aujourd'hui on repart pour un round dans la matière.
Et le ministère n'a cessé de changer d'intitulé.
Titulature très importante dans l'histoire. Ouais. Quand Robert Poujade s'en va après la mort de Pompidou, l'écologie apparaît dans la société civile. René Dumont se présente, pull rouge, verre d'eau, ouais, sur la table, dans la campagne présidentielle, 1974. Attention, demain, l'eau manquera, prévient-il. Robert Poujade en était venu, lui, à s'interroger sur la croissance et le but de la croissance. Il espérait que les règles de la comptabilité nationale changent et qu'une nouvelle comptabilité écologique prenne le relais qui intégrerait les coûts négatifs de l'épuisement des ressources. À bien des égards, il faut le dire, hein, Poujade était plus écologiste qu'aujourd'hui, Mesdames de Montchalin et Pannier-Runacher, nouvelle responsable de la transition. Vous remarquerez la formule d'ailleurs, transition. Nous avons eu auparavant développement durable. En 2007, on parlait de ministère de l'écologie et du développement durable. Le substantif écologique, dans les titulatures, n'est jamais employé seul. Et maintenant, de substantif, il passe à adjectif. Développement durable, transition écologique, c'est mieux dans les titulatures, Bruno, que la rupture. Disait André Gide, qu'est-ce qu'il disait André Gide? La pente quand même, le dénivelé, c'est fait pour être remonté. André Gide, qui est un des maîtres, vous le savez, d'Emmanuel Macron.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire et de qui? Et de Jean-Pierre Raffarin?
On dirait du Raffarin.
On dirait du Raffarin. La pente est faite pour être remontée. C'était une remarque de Frédéric Pommier. J'ajoute que ce fameux ministère qui a si souvent changé de titulature a sa revue d'histoire qui s'appelle Pour mémoire. On peut la consulter?
Ben, elle est même sur papier.
Elle est sur papier. Eh ben, très bien, c'est noté. Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, c'est à suivre. Quel est le programme?
On va parler de Venise sous les eaux dans un instant.
À tout de suite.